Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Nous allons vous livrer les toutes dernières informations, les décrypter, les analyser avec nos invités ce soir. Et pour cela, pour vous accompagner pendant une heure, Judith Vintraube est avec nous. Bonsoir ma chère
Bonsoir,
Judith.
Bonsoir Olivier.
Nathan Devers également est là ce soir. Bonsoir mon cher Nathan.
Bonsoir cher Olivier.
La parole à vous dans un instant. Mais avant, il est presque minuit. On fait un point complet sur les dernières informations. C'est le Flash Info et c'est avec vous Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Nouvelle scène de violence à Marseille où un drame a été évité. De justesse, une fusillade a éclaté sur un point de deal près d'une crèche. Une balle a atterri dans le salon, oui, d'une habitante. Ses enfants de 10 et 12 ans étaient présents dans le logement. Aucun d'eux n'a été blessé. Trois personnes ont été interpellées, dont deux mineurs. Des renforts de police ont été déployés à Givors, au sud de Lyon, après des scènes de chaos, des incidents et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté. C'était hier soir. Deux voitures de la police municipale et des poubelles ont été incendiées. Et selon le maire, il semblerait qu'il y ait eu, avant ces incidents, une ou des arrestations après une altercation. Enfin, des tags nazis ont été découverts sur un monument à la Résistance à Sète. C'est dans l'Hérault. La police nationale précise qu'il s'agit de croix gammées et d'inscriptions à caractère injurieux sur le monument aux martyrs de la Résistance et de la déportation.
Un grand merci, mon cher Mathieu. Et je vous propose de démarrer avec cette actualité qui provoque une nouvelle fois énormément d'émotions, le choc, de la tristesse également, mais aussi une énorme colère ce soir, notamment lorsque nous allons sur les réseaux sociaux. Avec ce nouveau drame, un adolescent de 15 ans est mort hier à Châteauroux. Il a été poignardé, touché plusieurs fois au thorax et au dos. Et selon nos informations, le suspect a été interpellé. C'est un jeune Afghan de 15 ans. Il est en situation régulière sur le territoire. Sa mère également a été placée en garde à vue. Plus de précisions avec Mathilde Ibanez.
Les faits se sont passés vers 17h30 ce samedi à Châteauroux dans l'Indre. Un jeune homme âgé de 15 ans a été poignardé au thorax et dans le dos dans le cadre d'une bagarre. Malgré l'intervention rapide des pompiers sur place, le jeune garçon est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Sans antécédent judiciaire, l'adolescent poignardé, apprenti, cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d'un ami également apprenti au moment des faits. Un suspect a été interpellé 2 heures après l'agression. Il s'agit d'un jeune Afghan du même âge, 15 ans, en situation régulière sur le territoire. Il était déjà connu défavorablement des services de police. Interpellé plusieurs fois depuis le début de l'année, le 29 février, mais également le 20 avril, à chaque fois pour vol avec violence en réunion sous la menace d'un couteau. Selon le procureur, la mère de l'adolescent suspect pourrait également être impliqué dans les faits de samedi, selon les premiers témoignages recueillis. La femme, âgée de 37 ans et sans antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et au service départemental de la police judiciaire du commissariat de Châteauroux. Une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.
Alors énormément de réactions ces dernières heures, notamment sur les réseaux sociaux, à commencer par celle du maire de Châteauroux. Nous allons le découvrir à l'antenne. Il fait part de sa peine. C'est avec une profonde tristesse et une grande consternation que j'ai été informé samedi soir du décès tragique d'un adolescent suite à une rixe survenue aux alentours de 17h30 au sein du quartier Saint-Denis. Mes pensées vont en premier lieu aux parents, à la famille et aux proches de la victime à qui nous adressons nos plus sincères condoléances et tout le soutien des Castelroussins. L'auteur de cet acte inqualifiable a été très rapidement identifié et appréhendé grâce au travail efficace des police nationale et municipale, auquel je veux rendre hommage. Je souhaite que la peine soit exemplaire et tiens à dénoncer cette ultra-violence qui gangrène notre société. Alors voilà pour la réaction de Gilles Averrousse. À droite également, beaucoup de réactions, mais on sent beaucoup plus la colère, la véritable colère, comme Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui parle ce soir d'un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Colère d'Éric Ciotti également, qui rappelle que le suspect avait été déjà mis en examen la semaine dernière et pour lui, aucune tolérance, la prison et l'avion. Voilà ce qu'il écrit ce soir. Énormément de peine pour la famille, bien évidemment, Judith Vintraube, mais aussi, je le disais, c'est très visible ce soir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère que l'on peut lire sur les réseaux sociaux. Encore un mineur, mort sous des coups de couteau, qui plus est par un autre mineur, qui plus est connu des services de police, sous contrôle judiciaire.
Je suis absolument ravagée par ce qui est arrivé à ce garçon de 15 ans. Je pense évidemment à ses parents. Et je suis assez en colère de voir le communiqué du maire Gilles Averrousse. À l'heure où il écrit ce message, on sait déjà que le meurtrier est un migrant afghan et on sait déjà qu'il a des antécédents judiciaires de vol avec violence. Donc on a les deux éléments principaux.
Et on ne sait pas si c'est une rixe, il emploie le mot terme rixe et on ne sait pas encore ce qui se
passe. Non, on ne sait pas encore. Alors la République de Reims a l'air de dire, elle a enquêté assez sérieusement avec des témoignages, a l'air de dire que la victime est tombée dans un piège, en fait, qu'on l'a appâtée avec un rendez-vous sentimental et qu'on lui a volé son portable, qu'il a réussi à le récupérer et que c'est là qu'il s'est fait assassiner. Mais de toute façon, les deux éléments, c'est un migrant afghan connu des services de police pour violence et qui se retrouvait en liberté, montre les deux erreurs tragiques, les deux échecs tragiques et hélas habituels des autorités françaises, c'est-à-dire immigration incontrôlée et justice des mineurs inexistante.
Nathan Devers, encore un nouveau drame touchant un mineur, mort d'un mineur. L'enquête est en cours, effectivement, encore ce soir. Cela fait écho à la mort de Zachary. C'était à Romans-sur-Isère. Il y a eu Zacharia, Romans-sur-Isère, Chemsedine. Cette fois, c'était à Viry-Châtillon. On se souvient aussi de Thomas à Crépol. Voilà, c'est drame. Similaires se succèdent. Nous avions déjà eu le débat et vous disiez, vous parliez d'un fait tragique, mais pas forcément d'un fait de société. Est-ce que ce soir, vous diriez la même chose, Nathan Devers ?
Alors, je dirais d'abord que c'est un fait tragique, bien sûr, que c'est absolument terrible. Je me joins à vous pour exprimer l'horreur que ce fait m'inspire. Je pense aux proches de ce garçon. Je pense aussi, j'ai lu le témoignage de la voisine, pas de la voisine, mais de la femme qui habitait juste à côté des lieux et qui a essayé de le sauver, qui est descendue avec des couvertures, qui a comprimé les plaies et qui racontait, c'est inimaginable, vous êtes chez vous, vous voyez ça en bas de chez vous, vous n'avez jamais vu quelqu'un décédé, vous vous êtes jamais retrouvé dans cette situation. Et cette femme faisait part de sa culpabilité de ne pas avoir réussi à le sauver. Et j'ai trouvé ça aussi bouleversant. Donc pour dire que c'est tragique, je suis d'accord. Pour dire évidemment que derrière chaque fait tragique, si on passe du temps, etc., on peut évidemment trouver des causes sociales et dire que c'est un fait de société. Mais dans ce cas-là, tout est un fait de société. D'accord. Mais ce que je récuse en revanche, c'est une certaine manière de traiter la question de l'insécurité. Il n'y a pas de déni de ma part. Je ne nie pas. Le mot d'ultra-violence était dans le communiqué du maire. Oui, c'est de l'ultra-violence. Oui, c'est absolument abominable. Oui, c'est absolument monstrueux. On peut faire une inflation verbale, tout ce que vous voulez. Je signe. En revanche, la question de comment on fait un récit sur l'insécurité. comment on met ça en récit socialement. Et il y a deux choses qui me dérangent. La première chose, c'est une question de perspective. C'est qu'il me semble que la bonne clé, si on veut essayer de faire des discours politiques sur l'insécurité, et moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait en effet beaucoup de discours politiques. Premièrement, c'est de ne pas faire des sortes de court-circuits explicatifs, de prendre un élément qui nous intéresse, alors l'origine du monsieur, ceci, cela, pour ensuite, si vous voulez, dire ça prouve que nous avons raison sur tel ou tel sujet, et surtout sur l'immigration, parce que c'est souvent le cas.
Mais deuxièmement, beaucoup de points communs.
Est-ce que vous connaissez les statistiques sur l'implication des mineurs étrangers dans les violences et dans les homicides? Est-ce que vous les connaissez?
Oui, mais si on prend la question de la délinquance, si on prend la question de la criminalité, par exemple, c'est intéressant, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est proche sur les viols ou sur les violences sexuelles. Mmh. Ceux qui veulent nous dire qu'il y a un lien comme ça entre l'immigration et les viols. Alors ils prennent certaines catégories de viols qui les intéressent, les agressions sexuelles dans le métro, sur la voie publique, etc. Et souvent, ces gens-là, on les entend moins pour dénoncer le nombre très très important de violences sexuelles, sachant que la très grande majorité des violences sexuelles sont le fait de proches des victimes et absolument pas de gens qui sont croisés dans la rue. C'est un exemple que je vous donne, mais pour montrer là, si vous voulez, ceux qui s'intéressent à ce qui va...
Il y a eu des chiffres récemment à ce sujet.
Une dernière chose qui va aussi de pair, c'est qu'évidemment quand il y a des faits terribles comme ça, ça fait un choc, une indignation, et c'est tout à fait normal, ce que vous avez appelé colère. Mais ensuite, quelle forme prend cette colère? Il y a à mon avis quelque chose qui est dangereux, qui est l'illusion rétrospective. Se dire après coup, en fait, il lui fallu prévoir. La chose était écrite. Ce monsieur-là, il était programmé pour tuer et, si vous voulez, l'État ne l'a pas vu. L'État est coupable. Alors, encore une fois, ça, il faut le démontrer. Si l'État est coupable quelque part ou responsable quelque part,
et il faut justement,
c'est dans des journalistes, ça prend des mois
dans,
ou
dans
des semaines.
Dans ce dossier-là, il y a quand même des éléments qui interpellent. On va y venir, puisqu'il a été interpellé la semaine dernière. Mais Julie Vintroub souhaitait vous répondre. Allez-y, Julie.
Répondre sur programmé pour tuer, c'est pas du tout ça. Il n'est pas question de dire que tout étranger, tout migrant est programmé pour tuer. Ça serait complètement stupide. Ce qu'il est question de dire, c'est de regarder les chiffres tels qu'on les a. Alors effectivement, vous avez raison, les homicides et les violences intraconjugales sont majoritaires dans les affaires, dans ce type d'affaires-là. Mais celle-là, on a évidemment énormément de difficultés à essayer de les empêcher. En revanche, la proportion de crimes sexuels commis par des migrants, des étrangers, et notamment par des mineurs étrangers, est telle que ce qu'il faut appliquer, c'est pas le principe de culpabilité, c'est le principe de précaution. Puisque la proportion est sans commune mesure avec leur proportion dans la population générale, ne tentons pas le diable. C'est un principe de précaution, c'est pas un principe de culpabilité.
Ce que vous êtes en train de dire, et on reviendra sur l'affaire de Château.
La transcription, et d'ailleurs vous avez hésité entre le mot probabilité ou proportion. Là, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le principe de précaution sur ce genre de proportion, ça veut dire si quelqu'un fait partie d'une population concernée, donc un migrant afghan qui a commis ou qui n'a pas commis un vol comme c'était le cas de ce monsieur monstrueux, eh bien on va dire par précaution, je pense qu'il y a statistiquement plus de chances qu'il devienne un criminel. Ça,
par précaution, je ne l'accueille pas. Je vais encore plus loin que vous. Par précaution, je ne l'accueille pas.
Mais alors, ça dépend de quoi on parle. Je ne connais pas le parcours de cette personne exactement.
On va en savoir un petit peu plus.
Si c'est passé, on sait ce qui s'est passé en Afghanistan ces dernières années, en 2021, quand les États-Unis se sont retirés, qu'il y a eu des demandes d'asile. La plupart étaient absolument dans des pays frontaliers, absolument pas en France, mais qu'il y en ait eu et qu'on ait accueilli des gens. Alors ça ne veut pas, si vous voulez, jeter l'opprobre ou l'opprobre, comme certains politiques disent maintenant, sur les demandeurs d'asile afghans, sous prétexte qu'il y en a eu un qui s'est comporté de manière monstrueuse. Et moi, encore une fois, je ne nie pas cela. Et quand le maire dit qu'il faut une peine exemplaire, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas dans une sorte
extraordinaire. Hein.
Oui, mais parfois, les banalités, c'est ce qui tient la République. Quand on veut éviter de dire des banalités et qu'on commence absolument à vouloir avoir un discours qui fait, c'est ce que j'ai appelé de l'inflation verbale. Devant un fait comme ça, vous dites c'est horrible. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est horrible, c'est monstrueux, etc. Et puis après, on voit bien, et je le vois sur les réseaux sociaux, c'était intéressant tout à l'heure, mais c'est très souvent la même chose. Eh bien, certains qui remontent et qui vont de plus en plus loin dans l'hyperbole, dans la mise en cause de l'État,
l'État, de la responsabilité des politiques, comme si les politiques étaient coupables des crimes qui ont lieu à Châteauroux, et qui vont ensuite souvent dans des discours, on le voit sur les réseaux sociaux, qui sont très souvent aussi racistes et qui n'ont rien à voir avec ce meurtre horrible qui a frappé une famille, qui a tué une personne et qui a fait des malheureux à vie.
Est-ce que les politiques sont responsables de la politique judiciaire en France ? Est-ce que les politiques qui votent les lois, qui émettent des circulaires, sont responsables de la politique pénale en France ?
Oui, mais en l'occurrence, cette personne qui avait fait, qui avait pas de casier judiciaire, qui a fait son vol avec effraction, violence,
il a eu une mise en examen,
ce qui est normal pour des faits de cette nature. On met pas en France des gens en prison à vie pour des vols avec violence. Donc, si vous voulez,
je parle de prison à vie. On parle d'un type qui s'est rendu 15 ans ou 16 ans, je crois. Ouais. Enfin, juste, il doit avoir moins de 16 ans parce que 16 ans, éventuellement, la loi permettait de l'incarcérer. On parle de quelqu'un qui, pas deux fois, s'est rendu coupable de violence et qui se retrouve dans la nature.
Et qui n'était pas encore
jugé. Alors, parce que la loi interdit d'enfermer en détention provisoire un mineur de moins de 16 ans.
Et c'est là où il va peut-être falloir soulever le problème, puisque je vous propose d'écouter Jérôme Retailleau, délégué départemental à Alliance, qui lui le disait, voilà, les policiers ont fait leur travail la semaine dernière, oui mais voilà, effectivement, ce jeune eh bien, s'est retrouvé dans la rue aujourd'hui, et la suite, on la connaît. On écoute Jérôme Retailleau.
On a déjà souligné le travail exceptionnel de mes collègues hein, qui, du bas de la chaîne, de la police secours aux enquêteurs, ont fait un travail remarquable déjà il y a 15 jours, il y a une semaine, par rapport à cet individu pour des faits de vol-violence. Il a été remis en main à la justice avec une procédure et remis en liberté. Nous, on peut constater une nouvelle fois aujourd'hui qu'on a encore une fois affaire à de la violence de mineurs et à un laxisme de la justice, parce que cet individu, s'il n'avait pas été dehors, ce jeune, on n'aurait pas un autre jeune de 15 ans qui serait décédé dans notre commune.
La question qui va se poser, bien évidemment, et Nathan Devers, la justice et l'enquête devra l'éclairer, c'est que faisait-il dehors une semaine après ? Est-ce qu'effectivement, il y avait des signaux qui auraient pu alerter la justice ? Tout cela, il va falloir profondément creuser cette question-là.
Oui, vous avez raison. Mais pour l'instant, en tout cas, rien ne dit que la justice a mal agi. Encore une fois, là, on sait maintenant que ce garçon a commis des actes absolument monstrueux et barbares. Sur le moment, on ne le savait pas. Encore une fois, si on découvre une défaillance, si on découvre qu'il y a eu une faute grave de quelqu'un, d'une institution, d'un juge, eh bien, il faudra le montrer. Et ça se montre en général sur le temps long. Mais avoir comme premier réflexe, quand il y a un fait dramatique, de se dire cette colère n'est pas à mettre sur le plan métaphysique. C'est horrible, c'est un meurtre, etc. Mais sur le plan politique, cela dit quelque chose de la société.
Parce que c'est une accumulation, Nathan Devers, c'est une accumulation de faits.
Vous avez lu cet article dans Le Monde d'un sociologue spécialiste du sujet sur la violence des mineurs, où il déconstruit un certain nombre de discours en montrant que, si on regarde la tendance longue, la violence des mineurs,
il a soigneusement choisi sa perspective pour qu'effectivement ces chiffres ne veuillent rien dire du tout. Cet article est vraiment profondément malhonnête intellectuellement. Vous avez vu la période de temps sur laquelle il travaille.
La réalité, et nous en parlions hors antenne pour que les téléspectateurs conviennent, on ne se souvenait plus quel était le nom des mineurs et la commune tellement ces derniers jours, eh bien, ces drames-là s'accumulent. Et cela, ce sont des faits.
Oui, mais encore une fois, il faut voir les statistiques année après année, décennie après décennie. D'abord, on peut remarquer, en invoquant l'histoire, parce que là, on est aussi dans une temporalité qui est celle de la PQR, qui a évidemment sa vertu et que je ne critique pas, c'est tout à fait sain. Mais ensuite, la question est de savoir quels faits on fait remonter pour en faire des drames nationaux, premièrement, et des réseaux sociaux surtout. Et les réseaux sociaux qui rendent amnésiques. Si on met les choses un peu en perspective, je rappelle, par exemple, qu'une époque comme la Belle Époque, vous lisiez les journaux de l'époque, les discours sur l'insécurité, les discours sur la violence des jeunes, sur la violence des jeunes qui traînent la nuit, les apaches on appelait ça, et qui viennent piller les villes et embêter les gens et agresser les jeunes femmes, etc. Ça existait déjà, premièrement. Et deuxièmement, que ces chiffres-là, encore une fois, évidemment, quand on parle des violences, il y a tellement de catégories, il y a tellement de choses, mais que si on prend la simple catégorie des homicides, non pas des tentatives d'homicide, et du nombre d'homicides par rapport à 100 000 habitants, si on le rapporte au début des années 2000, à la fin aux années 80, 90, 70, 50, la tendance longue, c'est une baisse. Alors évidemment, il y a des montées de mémoire. En 2011, ça a commencé à monter. Après le Covid, ça a commencé à monter. Mais par rapport à ce que c'était il y a 20, 30, 40 ans, c'est une baisse.
Pourquoi est-ce que vous excluez les tentatives d'homicide ? comme ça, parce que ça vous dérange dans le
non,
dans la courbe.
Les tentatives d'homicide ont augmenté, puisque je vais vous faire une confidence, mon cher Nathan. Nous avions préparé un sujet justement pour répondre à cette démonstration que vous venez de faire et que vous aviez déjà fait pour que nous puissions avoir les chiffres. Et effectivement, les tentatives d'homicide ont largement augmenté ces dernières années.
Oui, bien sûr. Et en l'occurrence, là, on commente un homicide. Les tentatives d'homicide ont augmenté. Encore une fois, il faut pas. C'est pour ça, moi, je suis absolument pas dans le déni. Les violences, il y a des types de violences. Certaines montent, certaines diminuent. J'ai lu que certains spécialistes, moi, c'est pas du tout mon champ de compétence, mais disaient aussi que l'appréciation de ce que c'était qu'une tentative d'homicide avait peut-être évolué avec le temps, aussi bien du côté de la justice que du côté de la police, qu'avec les évolutions de la médecine, etc. Que ce qu'on appelait une tentative d'homicide et le nombre d'homicides, de tentatives d'homicide qu'on comptabilisait comme tel dans les années 70 ou 80, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on avait plus tendance à considérer un événement comme tentative d'homicide. J'ai lu ça dans certains, je crois dans Marianne, il y avait un article qui expliquait ça très bien. Je suis pas spécialiste de ces sujets, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut traiter la question de la violence qui existe, la violence qui détruit des vies. Là, cet enfant qui est mort, ce jeune de 15 ans, sa famille, ses proches, ses amis, etc. Ces gens-là, ils sont en deuil à vie. Ouais. Jusqu'à leur mort, ils seront ravagés par ça. Donc, il faut le traiter évidemment sans fermer les yeux, mais avec aussi une forme de pudeur et sans chercher à tirer la couverture vers son idéologie. Voilà. Et moi, c'est absolument pas. Je suis pas là pour défendre une idéologie quelconque face à cette tragédie.
Voilà. Pleurons, allumons des bougies, faisons des marches blanches.
Mais on va pas rire.
Ça vous conviendrait comme.
Qu'est-ce que vous voulez faire devant un meurtre? On va pas ricaner, on va pas s'amuser, on va pas crier. Parce qu'il y a des gens qui crient sur les réseaux sociaux.
Je voudrais essayer de comprendre.
Voilà, et c'est ça, et ça sera très important.
Et de voir
les Français.
Si ça peut être empêché.
Les Français, dans les prochaines heures, les prochains jours, de toute façon, eh bien, vont vouloir comprendre et vont le faire savoir. Parce que est-ce que c'est la goutte d'eau de trop après cette accumulation? Peut-être, on le verra bien dans les prochains jours. En tout cas, effectivement, les Français attendent des réponses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, largement demain matin, dans la matinale de Romain Desarbres, bien évidemment. Je voulais également vous entendre ce soir sur ces images impressionnantes, inquiétantes même. Elles ont été tournées à Hambourg, en Allemagne. Près de 1000 personnes se sont rassemblées à l'appel de l'organisation Muslime Interactive. Alors, ils ont une revendication, notamment, c'est établir un califat en Allemagne et un califat fondé sur la charia. On regarde cette séquence et puis on écoutera ensuite Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Des images impressionnantes, 1000 à 2000 personnes, ce n'est pas rien. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a réagi sur les réseaux sociaux en début de soirée. En Allemagne, l'égalité des droits pour les femmes, la liberté de religion, la démocratie sont en vigueur. Nous agissons avec fermeté contre la propagande terroriste islamiste et la haine des juifs. Ceux qui veulent faire un califat ne sont pas à la bonne adresse en Allemagne. Claude Moniquet apportait des précisions donc sur cette organisation, cette Muslime Interactive. Et derrière, il y a un groupe terroriste qui s'appelle Hizb ut-Tahrir. On l'écoute.
Le Hizb ut-Tahrir s'attaque frontalement au mode de vie occidental et aux lois occidentales en réclamant ce califat. Alors évidemment, ça a très peu de chances, soyons clairs, d'être jamais appliqué en Allemagne, mais c'est une revendication qui trouve de plus en plus d'écho dans certaines franges de la communauté musulmane, souvent chez de très jeunes gens. Là, ils doivent être 1000 ou 2000. Ça n'est pas énorme, mais c'est quand même effectivement inquiétant, parce que pour 1000 ou 2000 personnes qui se sont déplacées, combien en définitive partagent-elles les mêmes ambitions, les mêmes idéaux? Ça, c'est très difficile à estimer.
C'est vrai, Judith Vintraube, que ces scènes n'existaient pas il y a quelques années. Ces propos, ces demandes d'un califat sur le territoire européen, nous ne l'entendions pas. On voit bien que c'est le signe d'une offensive, finalement, qui n'est même plus cachée sur le
territoire européen. C'est ça, on est passé de l'entrisme à la pénétration, à visage découvert. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a le mérite de la clarté, mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle. Je rappelle que Angela Merkel, en 2015, avait conclu un accord au nez et à la barbe de tous ses partenaires européens, dont la France, évidemment, pour accueillir au final près de 1 million de réfugiés. on a, je pense, le résultat du terreau qu'elle a fabriqué et dont elle a reconnu elle-même il y a quelques années qu'en fait, c'était une erreur parce que le multicu, comme on dit en Allemagne, ça ne marche pas.
Et Claude Moniquet, effectivement, faisait le lien lorsqu'il répondait sur notre antenne, Nathan Devers, avec cette vague migratoire qui est arrivée en Allemagne. Alors, ce n'est pas encore sur le territoire français. Néanmoins, c'est une organisation qui s'attaque à la France. On ne voit pas encore ces scènes aujourd'hui dans nos rues. Cela, selon vous, pourrait arriver prochainement?
Ce qu'on voit en effet, c'est que quand l'islamisme s'est attaqué à des démocraties, et on en a, les exemples sont nombreux, et il y a des pays qui sont même tombés. Hein. L'Algérie a connu le sort tragique qu'on lui sait dans les années 90, précisément pour cette raison. Et en effet, c'est toujours en commençant par l'entrisme, et c'est toujours ensuite en passant par la pénétration, et ça ne s'arrête pas là. Et après, il y a une forme de viol du corps social, hein. C'est, si on reprend cette métaphore-là. Comment les choses se passent? Une démocratie, et c'est heureux, c'est un espace de droit, c'est un espace de liberté, c'est un espace où on peut manifester, comme là, ce qu'ils ont fait. C'est un espace où on garantit la liberté d'expression, où il y a cette fameuse phrase que Voltaire n'a pas dite, mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour ouais. que vous puissiez le dire. Et les islamistes, comme tous les prosélytes intransigeants, fanatiques, jouent de cela. Ça veut dire qu'ils jouent les règles de la démocratie contre eux. Ils réclament ces libertés-là, mais pour prôner un discours qui a clairement, explicitement, là c'était le cas, pour objet de dire « si nous arrivons au pouvoir, nous voulons détruire le système qui a rendu possible notre ascension ». Alors face à cela, il y a à mon avis un vrai dilemme qui est posé. Ça veut dire que d'un côté, il faut une attaque frontale contre l'islamisme, contre l'idéologie islamiste, contre les méthodes des islamistes. Et en même temps, il ne faut pas que cette attaque, elle détruise de l'intérieur ce que représente une société démocratique comme la France. Je citais le cas de l'Algérie, évidemment, c'est un cas complètement hyperbolique, mais c'est exactement ce qu'a connu l'Algérie dans les années 90, où la lutte contre l'islamisme a eu aussi des méthodes qui se sont retournées à la fin contre le gouvernement et qui l'ont conduit à faire des choses qui étaient plus que critiquables et qui étaient également terribles. Donc ce que je dis, c'est évidemment pas la même chose pour la France et pour l'Algérie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire, il faut être une radicalité et une fermeté absolue dans la lutte contre l'islamisme. Et je pense notamment que l'idéologie islamiste, on ne l'attaque pas à la racine. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, ce sont avant tout des discours complètement débiles, d'un point de vue théologique, des discours de gens qui sont des crétins, qui est d'ailleurs souvent, quand on regarde le parcours de ces imams, c'est des gens qui sont arrivés à la religion après avoir fait des vies complètement... je ne juge pas les modes de vie, mais qui n'avaient rien à voir avec ça, qui n'y connaissent rien, qui sont juste des gens pleins de ressentiments, bourrés de haine, et qui veulent détruire leur public et leurs auditeurs. Il faut les attaquer fermement, et il faut le faire en restant les démocraties que nous sommes.
Judith Vintraube.
Alors, moi je suis d'accord avec vous, mais par cynisme... ça m'ennuierait pas du tout si c'était efficace qu'on juge, qu'on pénalise ce genre de discours. Or, ça n'est pas efficace. Vous en faites des martyrs et en fait, vous alimentez cette paranoïa. Hein, l'Occident veut tuer les musulmans. Notre seule façon de bien vivre, c'est de faire un califat, c'est de vivre entre nous, c'est d'imposer notre mode de vie. Vous alimentez l'idée de ce conflit de civilisation qu'ils veulent importer. Donc c'est par cynisme que je trouve que vous avez raison de dire qu'il faut l'attaquer intellectuellement et pas... évidemment, si ce n'est pas des appels à la haine, enfin, des choses qui tombent sous le coup des lois, et pas pénalement, et pas judiciariser le combat.
Je vous propose de revenir en France à présent, après ce drame évité de justesse, un drame qui s'est passé à Marseille, une information CNews que nous révèle Sandra Buisson. Regardez.
Les policiers sont en patrouille ce samedi après-midi dans le 11e arrondissement de Marseille, quartier de la Valbarelle, dans un secteur connu pour être le lieu de trafic de stupéfiants. Ils constatent la présence d'individus suspects qui vont prendre la fuite et s'enfoncer dans la pinède avoisinante. C'est là que des coups de feu retentissent. Trois hommes vont finalement être interpellés. Deux d'entre eux sont âgés de 16 ans. Ce sont des adolescents et le troisième a 19 ans. Parmi les tirs, deux impacts sont retrouvés sur la façade d'un d'un bâtiment de ce quartier, un dans le hall d'entrée et un autre sur une baie vitrée du troisième étage. La balle a atterri dans le salon d'une habitante. À ce moment-là, elle était allongée dans son canapé qui se trouve devant la baie vitrée et ses enfants de 10 et 12 ans étaient sur deux chaises juste à côté d'elle. La balle a traversé la baie vitrée, elle est venue ricocher sur le mur du salon pour venir finir sa course sur le fameux canapé. Aucun des membres de cette famille n'a heureusement été blessé. Près de cet immeuble, les policiers ont aussi retrouvé deux balles non percutées dans le jardin d'une crèche, sachant que c'est à proximité de cette crèche que les trafiquants cachent habituellement une partie de la drogue quand ils sont sur le point de deal. Derrière la crèche, les policiers ont également saisi un sac avec deux couteaux, de la résine de cannabis et du matériel de conditionnement.
Cela fait combien de temps, Judith Vintraube, que nous analysons, débattons autour d'une actualité similaire à Marseille? C'est toutes les semaines, c'est tout le temps. D'ailleurs, on a fait le tour. Vous, Judith, vous, Nathan Devers, vous avez finalement partagé votre expertise sur le sujet maintes et maintes fois sur ce plateau. Et en même temps, si on n'en parle pas, mais est-ce qu'on ne laisse pas tomber aussi ces riverains qui, au quotidien, souffrent de ces points de deal, et ce, malgré les opérations PlaceNet, malgré les efforts annoncés du gouvernement?
Bien sûr, c'est le gros problème. On retombe sur faut-il en parler ou pas, mais ne pas en parler, effectivement, c'est contribuer à la banalisation des choses. Or, ça ne devrait pas être banal, mais malheureusement, c'est ultra fréquent et de plus en plus fréquent. Et quand on est journaliste, à chaque fois, on interroge les habitants, les populations qui souffrent de ça. Et à chaque fois, elles vous disent qu'après une opération PlaceNet, les dealers se réinstallent ou au même endroit ou 300 mètres plus loin. Donc que ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Pourquoi ? Parce que la justice laisse filer beaucoup trop de petites mains, je ne parle pas des trafiquants importants, parce qu'il n'y a toujours pas suffisamment de places de prison. Vous savez, les deux raisons.
Il y a eu d'autres mesures. Alors, est-ce que ces mesures peuvent être efficaces? Annoncé aujourd'hui par Éric Dupond-Moretti, la peine des trafiquants de drogue pourrait être réduite s'ils collaborent avec la justice. C'est un statut inspiré par l'Italie, le fameux statut de repenti. Éric Dupond-Moretti qui propose aussi deux autres mesures phares. Les explications de Viviane Hervier et vous vous exprimez ensuite.
Pour mieux lutter contre le crime organisé, Éric Dupond-Moretti propose la création d'un nouveau parquet national anticriminalité. Il sera calqué sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier qui ont prouvé leur efficacité en permettant une meilleure coordination de l'action de la justice.
On centralise tout cela, on est plus efficace, on coordonne davantage. Et je pense que dans cette matière de la criminalité organisée qui se développe, il est utile qu'il y ait ce procureur national dédié à la lutte contre la criminalité organisée.
Le garde des Sceaux souhaite revoir également le statut de repenti qui existe déjà en France mais qui ne fonctionne pas avec seulement 20 cas recensés depuis 2014. Les trafiquants repentis se verraient proposer des réductions de peine mais aussi de vraies garanties.
Les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites. Le silence est l'ennemi de la justice en la matière.
Le coût de ce statut des repentis sera intégralement couvert par les avoirs criminels saisis par la justice, 1,4 milliard d'euros en 2023. Enfin, Éric Dupond-Moretti propose que les cours d'assises spéciales, composées uniquement de magistrats professionnels, jugent désormais les règlements de compte entre trafiquants, afin d'éviter les pressions et les menaces sur les jurés d'assises qui traitent actuellement ce genre d'affaires.
Alors bien sûr, après l'annonce de ces mesures, il va y avoir le débat. Faut-il avant tout construire des places de prison? Faut-il avant tout plus de bleus, plus de moyens pour les policiers? En tout cas, est-ce que le garde des Sceaux, finalement, notamment avec ce statut de repenti, il ne reconnaît pas implicitement bien l'existence de mafias sur le sol français? Est-ce que l'annonce de ces mesures...
C'est pas Bruno Le Maire qui en avait parlé déjà? Qui avait même utilisé le terme de mafia à propos des réseaux de trafiquants de drogue. Il me semble qu'il l'avait fait.
Je crois que c'est possible, oui. Mais moi, je ne peux qu'aller dans ce sens, parce que je le dis souvent, et en effet, on radote entre guillemets sur ce sujet, mais oui, ce sont des mafias. Ça fonctionne comme des mafias. Tous les traits de la mafia, ça veut dire ils opèrent dans des endroits où l'État a reculé, pas seulement sur la police et sur la justice, l'État de manière générale. Ils recrutent des gens qui sont souvent défavorisés et qui ont comme seule perspective de gagner 3 ou 4 000 euros à 15 ans pour faire le chouf. Ils brassent des quantités d'argent telles qu'à la fin, ils ont plus de pouvoir que n'importe quelle structure, avec un risque qu'il ne faut pas négliger, c'est que d'ici quelques décennies, il puisse y avoir de l'entrisme politique. Parce que notamment aux petites échelles, échelle municipale, etc. À un moment, vous pouvez pas faire de politique si vous, enfin, c'est arrivé dans certains pays, si vous n'avez pas des relations. Et même en France, il y a eu des relations complexes parfois.
On parlait de Marseille tout à l'heure.
La politique et la mafia, ça a déjà existé. Mais par contre, il me semble qu'il y a un élément parce que c'était, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit quand vous avez dit bon, on commente tous les jours, mais que dire de plus. Il me semble qu'il y a peut-être une autre parole à avoir. Quand l'autre fois, CNews a interviewé un petit jeune qui faisait le trafic là à Marseille et qui disait mais de toutes les manières fermez tout ce que faites ce que vous voulez mettez en prison etc. Il avait cette expression, il disait je crois on encule la France ou un truc comme ça, bon je suis désolé de le dire mais c'est une citation, c'est quasiment ça, et non niquez vos mères, bon, et il dit parce que de toutes les manières on aura toujours des clients. Et il avait raison. C'est la parole la plus sage, entre guillemets, sur le sujet. Il y a 5 millions de consommateurs de drogue en France. Quoi qu'on fasse, ces gens-là n'arrêteront pas de consommer de la drogue.
Vous voulez ouvrir le débat sur la...
J'aimerais qu'on ouvre un grand débat sur la question de la drogue en France. Avec, c'est pas en vue d'une solution en particulier, la dépénalisation ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ouvrir un débat, parce que je pense que c'est un sujet énorme, c'est un sujet de santé publique. Il y a 5 millions de consommateurs. On devrait le faire sans hygiénisme. On est un des pays d'Europe avec le plus de consommateurs et la législation la plus répressive. C'est un paradoxe et une législation qui ne sert en rien à endiguer ce phénomène. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir là-dessus et se demander si notre hygiénisme d'État, qu'on voit agir sur tous les sujets, n'est pas inefficace pour régler la question de la santé publique.
Mais ces mafias finalement feraient leurs affaires dans un autre domaine ou peut-être avec aussi d'autres sur d'autres drogues.
Alors est-ce qu'il y aurait transfert par exemple du cannabis à la cocaïne dans les pays où le cannabis a été légalisé, on observe ce phénomène, mais pas de façon massive. Mais là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec Nathan. Je voudrais un débat dont la conclusion ne soit pas écrite à l'avance, un débat qui ne soit pas instrumentalisé en faveur ou contre la dépénalisation, parce qu'on n'arrive pas à avoir des données correctes, on n'arrive pas à avoir des données objective et que à un moment il faut se poser la question du moindre mal. Alors je ne néglige pas du tout le problème de santé publique que constitue la drogue, mais les gens qui meurent à cause du trafic, les mômes à la dérive dont la vie est fichue à cause du trafic, c'est aussi un sacré problème de santé publique, me semble-t-il.
Question également pour cette semaine, est-ce que les instituts d'études politiques vont s'embraser un petit peu comme à l'image de ce qui se passe aux États-Unis ces derniers jours? Vous le savez, il y a eu le blocage de Sciences Po Paris vendredi, vous l'avez suivi en direct sur notre antenne, et la direction a ensuite annoncé un accord donc avec ces manifestants pro-palestiniens. Accord d'ailleurs qui ressemble davantage à une soumission, c'est en tout cas ce que beaucoup constatent. Ayant pris connaissance des revendications du comité Palestine de Sciences Po, la direction a annoncé la suspension des poursuites disciplinaires envers les étudiants, donc pro-Palestine. Un débat a également été annoncé. On regarde ce sujet de Juliette Sadat et nous en parlons ensuite.
C'est pour calmer les esprits que la direction de Sciences Po Paris a pris sa décision. D'ici ce jeudi se tiendra un débat interne dans l'enceinte de l'établissement. Toutes les communautés de l'école sont conviées. L'occasion de répondre à toutes les questions, notamment celles liées aux revendications des manifestants. L'interrogation par exemple sur les partenariats de l'école avec les universités et les organisations soutenant l'État d'Israël. Une annonce également sur la suspension des procédures disciplinaires engagées contre les manifestants. Le comité Palestine, à l'origine des blocus ces derniers jours, se dit satisfait de cette décision et annonce qu'aucune nouvelle occupation n'est prévue. Une semaine qui devrait donc se dérouler dans le calme, après plusieurs mobilisations d'étudiants pro-palestiniens devant l'établissement parisien et l'intervention vendredi dernier de la police pour trouble à l'ordre public.
Judith Vintraube, est-ce que selon vous un embrasement possible à d'autres IEP, instituts, ou pourquoi pas à d'autres universités en France est possible dans les jours qui viennent? Selon vous, on a vu effectivement que les étudiants de Sciences Po, au fond, pourrait tout à fait recommencer ou donner des idées, puisqu'il n'y a ni sanction et.
Déjà, il y a eu la même chose dans les Sciences Po de province. On en a moins parlé. Il y a eu
Sciences Po Reims.
À Reims, au Havre aussi. Poursuivre les mots d'ordre de mobilisation sur les réseaux. Je vois que c'est un peu partout, et pas que à Sciences Po d'ailleurs. Par exemple, vous avez l'université de Grenoble, qui est une pépinière d'extrême gauche, de talent d'extrême gauche, qui est très agité en ce moment. Vu l'état global de l'université, de l'enseignement supérieur, des grandes écoles en France, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas s'embraser, d'autant que, comme vous le disiez, la décision de la direction provisoire de Sciences Po, puisque c'est une direction provisoire, est en fait un blanc-seing donné, blanc-seing au blocage et blanc-seing à des revendications. Par exemple, cesser tout échange avec des facs israéliennes, comme si les facs israéliennes adhéraient à la politique de Netanyahou. Qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'on peut leur reprocher quand on n'est pas antisémite? Mais quand on est antisémite, oui, tout ce qui est israélien doit être banni de France.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a dit d'ailleurs pas question de céder à ces pressions, mais on peut s'interroger.
La ministre de l'Enseignement supérieur a félicité la direction provisoire de Sciences Po de ce bel accord.
Voilà, effectivement. C'est pour ça que cela interroge aussi le cap du gouvernement dans cette situation, Nathan Dever, puisque, alors oui, on a vu Gabriel Attal afficher sa fermeté, mais Sylvie Retailleau s'était déjà exprimée en mars dernier. Les lignes rouges sont franchies. C'était ces mots, les mêmes mots qu'elle a répétés vendredi matin. On sent un certain flottement du côté des autorités.
Oui, on sent un certain flottement parce que ce qui se passe est grave. Que des étudiants manifestent pour Gaza. C'est parfaitement leur droit et c'est parfaitement sain, ça relève de leur conscience morale. Il y a des gens, des civils qui meurent par milliers, tout cela est absolument tragique. Qu'ils aient envie d'exprimer leur soutien, leur indignation, leur colère, je n'y vois en soi aucun problème. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans deux choses. Il est premièrement ce que vous avez dit, par exemple, dans ces revendications, le fait de vouloir couper les partenariats avec les universités israéliennes. Alors, les universitaires, je ne vais pas dire leur nom, parce que je ne vais pas exposer leur nom à des lynchages, mais il y a des universitaires israéliens qui travaillent avec Sciences Po Paris, qui sont les gens les plus critiques du gouvernement et de la politique et des gouvernements successifs en Israël depuis 20 ans que je connaisse. Les universités aujourd'hui en Israël, surtout en sciences politiques, sont très 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 loin d'applaudir la politique de M. Netanyahou. Il y a aujourd'hui, on l'a vu ces derniers jours, des manifestations monstres en Israël pour réclamer même la fin, ou en tout cas un changement total de la méthode de ce qui se passe à Gaza et la fin de cette méthode-là. Vous remarquerez d'ailleurs que jamais la société israélienne, dont, qui a aussi, enfin une grande partie, dont une grande partie a une colère vis-à-vis de son gouvernement, n'est associée à cette colère-là. Ce qui montre bien que là, il y a un problème ontologique vis-à-vis d'Israël. Deuxième chose qui ne va pas, c'est peut-être subjectif, je n'ai pas vu une seule personne tenir un drapeau palestinien et un drapeau israélien, montrer qu'ils étaient pour la paix.
Alors exactement, quand on est
pour la solution à deux États, qui est la position officielle de LFI qu'ils ont applaudi, ils ont acclamé
et pas un mot sur les otages,
Rima Hassan, etc., on peut tenir un drapeau palestinien et un drapeau israélien ou une carte de la région avec les deux pays, pourquoi pas dans les frontières de 67, très bien, personne ne l'a fait. Ou en tout cas, personne n'a été filmé le faisant. Tout cela fait, et puis dernière chose, quand même, quand on s'indigne sur les civils qui meurent à Gaza, encore une fois, je pense que c'est leur droit et même en quelque sorte leur devoir moral, mais dans ce cas-là, on s'indigne sur les victimes en Ukraine, sur les Ouïghours, sur... Enfin, la liste serait très longue. Il n'y a pas beaucoup de blocages d'universités pour soutenir les Ouïghours.
Et puis, d'attendre, éventuellement, on s'indigne quand le Hamas exécute, torture des Palestiniens. Oui. Hein, chose qu'il a faite énormément en 2014, encore en 2022, avec des exécutions, des pendaisons, des procès expéditifs. Mais là, ces Palestiniens-là n'intéressent pas la jeunesse.
Vous avez raison.
Aux Palestiniens français.
Et même en 2023, à l'été, quelques semaines avant le 7 octobre, il y avait des manifestations à Gaza. Les civils de Gaza ont été héroïques de manifester contre le Hamas et ils se sont fait tirer dessus à balles réelles.
En tout cas, ce que l'on voit avec ce blocage à Sciences Po et ces manifestations d'étudiants, c'est que ce conflit israélo-palestinien, il est bien importé aujourd'hui sur notre territoire. Et justement, le comédien, l'acteur Yvan Attal s'exprimait aujourd'hui sur Radio J. Il livrait un témoignage très fort, très révélateur sur son état d'esprit depuis le 7 octobre. Écoutez.
je dois voter. Je ne sais plus qui...
D'ailleurs, vous allez voter ?
Je ne sais pas.
Aux européennes ?
Je ne sais pas. Je ne sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football, parce qu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes, ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades.
Vous alliez souvent
je ne peux
stades.
Plus être moi-même.
Ouais.
Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français, parce que je sais qu'à des endroits, on veut me couper la tête.
À des endroits, on peut me couper la tête, je ne peux plus aller à un match de foot, je ne peux plus aller voter, je ne peux plus être moi-même. C'est quand même terrible d'entendre cela aujourd'hui en France.
Ben oui, mais quand vous êtes brutalement effacé, annihilé, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, au profit de votre simple identité juive, ou de la dimension juive de votre identité, pour prendre une formule plus exacte, c'est terrible. C'est le propre de l'antisémitisme, de réduire à néant les individus, en ne voyant plus qu'une seule dimension de tout ce qui fait leur être et une dimension haïssable.
Yvan Attal, qui d'ailleurs s'est exprimé sur Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et pour lui, il le dit, aujourd'hui, l'antisémitisme, il vient de la gauche. Voilà la réalité du pays. On l'écoute.
Mélenchon qui multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein.
Il n'est pas idiot. Enfin, il est totalement crétin de faire ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Il est vrillé, il est fou. Il est antisémite.
Bah, c'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir, sa tronche, et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous les, de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui.
Mélenchon.
Hein.
Nathan Devers, on le sait bien, la stratégie de LFI, c'est le soulèvement, le chaos. Aujourd'hui, l'extrême gauche ne montre plus de doigt le bourgeois, mais le français de confession juive. C'est ça la réalité ?
Yvan Attal vient de la gauche. Il a toujours été de gauche. Et il n'est pas le seul à venir de la gauche et à dire, là, il y a un problème avec une partie de la gauche et l'antisémitisme. Donc ces gens-là ne font pas ça, si vous voulez, pour faire des coups bas politiques ou pour lancer des attaques. Ils le font parce qu'ils ont une blessure. C'est pas une attaque. C'est pas une critique, c'est une blessure. Et ce qui est terrible, c'est que cette partie-là de la gauche, au lieu de se dire, ces gens-là militaient avec nous, étaient avec nous dans les manifs, dans les combats, et aujourd'hui se sentent exclus, leur crache dessus. J'ai vu le harcèlement en ligne là, qui s'est pris Yvan Attal toute la journée. Voilà. J'aimerais juste dire une chose. J'entends beaucoup, en fait, quand vous parlez à cette partie de la gauche qui a ce problème avec l'antisémitisme, ils vont vous répondre non, j'ai pas du tout de problème avec l'antisémitisme. En revanche, le CRIF, officine d'extrême droite, l'UEJF, je crois, facho, là, c'est ce qui a été dit l'autre jour, qui défend un génocide. Bon, faut m'expliquer l'UEJF, qui est un truc plutôt quand même globalement de gauchiste, pour la paix, enfin bon, etc., etc. Imaginez quelqu'un qui vous dise je ne suis pas homophobe. Mais toutes les associations qui défendent les droits des homosexuels, alors là, par contre, c'est le cancer de la République. Cette personne qui dirait ça, on lui dirait « Monsieur ou Madame, vous êtes homophobe, point final. » Et personne ne dirait le contraire. Et je donne un seul exemple, mais il y aurait tellement d'arguments. Il y a un point aveugle là, avec une phraséologie qui est objectivement réactive. Toute la littérature, tout l'imaginaire, tous les tropes de l'antisémitisme français... qui évidemment passent toujours sous la ligne rouge parce qu'ils veulent pas avoir de procès et qu'ils en auront pas parce qu'ils le font très bien pour voilà. Et il faut ouvrir cette question. Heureusement qu'il y a des gens à gauche. Et Sandrine Rousseau avait dit qu'il fallait ouvrir un grand débat à gauche sur la question de l'antisémitisme. Elle avait été courageuse de le dire. Elle n'a pas été suivie, mais il faudrait qu'elle soit suivie.
Nous suivrons donc de près ce qui va se passer à Sciences Po Paris cette semaine, ce fameux débat prévu avant jeudi. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est toujours passionnant de vous entendre décrypter l'actualité. Judith Vintraube, Nathan Devers, peut-être cette dernière image un peu plus légère. Ces images de la Seine, puisque interdite depuis 1923, c'est en tout cas l'un des héritages promis à l'issue des Jeux Olympiques de Paris. Se baigner dans la Seine, ce sera possible. Une promesse à 1,4 milliard en un mot. Je sais que ça ne vous inspire pas grand-chose. Judith Vintraube, je peux vous épargner. Il reste quelques secondes. Mais...
Non, juste si 1,4 milliard pour un résultat qui fonctionnait devait être dépensé, tant pis, ça coûterait 1,4 milliard. Mais moi, ce que je commence à enquêter là-dessus, des experts me disent que 1,4 milliard, même 1,4 milliard, on n'y arrivera pas.
Bon, effectivement, donc plutôt une idée folle, on n'y arrivera pas. Et peut-être qu'avec 1,4 milliard, on peut faire autre chose plutôt que
Il faut dire, je pense aussi que ça arrivera pas. Enfin, j'ai pas de compétences, mais ça m'étonnerait beaucoup. Si c'était réussi, ce serait une révolution pour Paris. Imaginez qu'on puisse nager à Paris, vraiment, et pas que ce soit un truc dégueulasse que les gens fassent par idéologie, mais que ce soit vraiment la Seine, un lieu où on puisse nager, ça changerait complètement la face de notre ville, il faut quand même le dire.
Et j'avoue que ce serait très agréable de faire quelques brasses entourées de la Tente de Verre et Julie Vintraube, ça pourrait être assez sympathique. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous les deux.
Merci.
L'actualité qui continue sur CNews. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit. C'est avec Mathieu Devez qui reviendra sur toute l'actualité du jour. Excellente nuit sur notre antenne, excellente semaine. Un grand merci à toutes les équipes techniques. À très vite sur notre antenne.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com